Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tu sais, juste avant qu'on fasse ce call, j'étais en train de regarder ta vidéo bullet journal du mois de mars.
Ouais.
Et c'est de la science-fiction.
Pourquoi? Qu'est-ce que je raconte encore?
Oh bah, je te vois préparer le mois de mars comme si le mois de mars allait être normal. Et puis 3 mois plus tard, tu penses que c'était de l'apocalypse en mars.
C'est vrai.
On dirait un prof de science-fiction, c'est magique.
On savait pas ce qui allait se passer, c'est clair. Et puis c'est même, tu vois, j'avais préparé mon mois d'avril en me disant pourquoi faire. Effectivement, quand je regarde mes pages du mois d'avril, eh bien, il n'y a rien dans le calendrier. Voilà, c'est fantastique. Mais c'est pas grave, c'était un bon exercice.
Allez, je lance.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes, à la rencontre de celles qui vivent leur vie comme bon leur semble. Cette semaine, j'ai tendu mon micro à une créatrice multitalent. Tu l'as peut-être déjà croisée sur Instagram ou sur YouTube, ou encore ces 3 dernières années dans la rubrique mode de Mademoiselle.com. Élise Francis a fait des études de lettres, de langue, de stylisme pour être actuellement indépendante. Elle répand son optimisme, sa bonne humeur et son talent sur ses réseaux sociaux et notamment sa chaîne YouTube, à laquelle vous ne manquerez pas de vous abonner sans tarder, je n'en doute pas. Cet entretien a été enregistré à distance, confinement oblige, et toutes mes excuses pour les quelques saturations de rire. Oui, on a ri, beaucoup. On a aussi un peu pleuré, normal pour des hypersensibles. On a parlé de confiance et de métamorphose, de leçons apprises et d'espoir en l'avenir. Mettez-vous à l'aise et invitez-vous dans notre discussion. Bonne écoute.
Bonjour Élise.
Salut Clem.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Élise ?
Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Eh bien, je fais des cures de sébum, présentement. Je ne sais toujours pas faire mon pain parce que je n'ai pas pu acheter de farine depuis un mois et demi. Par contre, je roule sur les papiers toilettes, là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je fais de mon mieux, comme dirait Zach. je suis créatrice de contenu web. Ouais, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était ce qui marchait le mieux pour définir un petit peu mes activités. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Élise Francis, qui n'est pas mon nom de famille, comme beaucoup de gens le croient, où on parle beaucoup de do-it-yourself, de bullet journal, de créativité, et puis globalement de trucs qui me font du bien, qui me font marrer. Ça peut être de la bouffe, ça peut être de la méditation, de la mode, voilà, tout ce qui me fait vibrer.
À l'heure où on enregistre cette interview, ta chaîne YouTube avoisine les 50 000 abonnés.
Oui,
bravo.
Merci beaucoup, je suis très contente.
Started from the bottom, parce que j'étais là quand you started.
Oui, yes, tout à fait.
Donc bravo. Et pourquoi Francis alors, si c'est pas ton nom ?
Parce que, en fait, j'ai ce truc... Tu sais, des fois, quand tu parles... Tu racontes une histoire à un pote ou à une pote et tu dis « Ouais, mais tu sais, Micheline, là, elle m'a dit un truc. » Et puis, tu sais, tu as toujours un prénom comme ça que tu sors. Et ben en fait, moi, c'était Francis à l'époque. Et puis j'ai fini par appeler ma créativité Francis, un peu comme si elle était extérieure à moi. Des fois, on a des conversations. Donc, voilà, ça me faisait marrer. Et puis, j'aimais bien aussi l'idée d'avoir un prénom... Enfin, ouais, d'utiliser un prénom masculin qu'on passe au féminin, du coup, avec les deux SE à la fin. N'en déplaise peut-être à Francis Cabrel et Francis Lalanne, on ne sait pas.
Je pense qu'ils ne seront pas... Ils ne seront pas inquiétés par ta créativité.
Je pense qu'ils ne me connaissent surtout pas.
Et dommage pour eux, parce que moi je te connais et je suis ravie qu'on puisse faire cette interview pour te faire connaître encore plus à celles de ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu disais à l'instant que tu es créatrice de contenu web, en tout cas c'est ce que tu réponds quand je te demande aujourd'hui ce que tu fais dans la vie. Mais quand tu étais petite et que des adultes te demandaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu leur répondais ?
Je suis passée par plusieurs périodes, tu sais. Je pense que j'ai voulu être... Ouh là là, alors je vais faire l'impasse sur le chronologique parce que je ne me souviens pas dans quel ordre c'était, mais j'ai voulu déjà être chanteuse, j'ai voulu être prof d'allemand.
Ça, c'est les origines alsaciennes.
Ça doit être ça, je pense, clairement. Je sais que quand je jouais avec mon grand-père, je jouais à l'infirmière. Donc, il faisait semblant de s'évanouir et moi, je le réveillais avec un pot pourri sous le nez. Voilà, il faisait oh, quoi ? Tu m'as réveillée, tu m'as soignée. Voilà. J'ai voulu être styliste. Je dessinais des vêtements dans un carnet que j'avais enrobé de papier cadeau. Voilà, c'était très joli. J'ai voulu être parfumeuse, enfin être née, créer des parfums. Masseuse, ouais, je suis passée par pas mal de stades. Hein.
Est-ce que tu te souviens de la première fois que ce que tu voulais faire plus tard, c'était une idée claire ? C'est-à-dire que c'était pas justement un peu un jeu d'enfant, mais c'était, t'avais compris que plus tard il allait falloir faire quelque chose, et tu t'es dit, quitte à choisir, enfin il faut choisir ou je dois choisir, j'ai envie de faire ça ou d'être ça. Est-ce que tu te souviens des premières fois ou de la première fois où c'est devenu quelque chose d'un peu concret ?
Ouais, il y a eu plusieurs étapes pour des métiers différents, d'ailleurs. Je pense qu'être être styliste ou travailler avec les vêtements, c'était un vrai souhait. Donc je l'envisageais pendant une période assez sérieusement. J'ai voulu être journaliste aussi. Donc ça, c'est pareil quand il a fallu faire ses fameux vœux sur Abibac à l'époque. Abibac, pas du tout. Abibac, c'est les gens qui font le bac. Oui, n'importe quoi. Comment ça s'appelle ? Opération post-bac ? Non. Application post-bac ? Génération post-bac, on dirait un truc du club Dorothée. Bref, là où il fallait mettre ses vœux. Ouais, là, j'avais regardé pour être journaliste. T'as vu, je fais des pauses et je te reformule les phrases.
Merci, elle sait, yes, le montage, on adore.
On adore le montage, surtout du son, putain.
Je vais tout garder néanmoins.
Et merde, tu vas garder Abibac, super, merci beaucoup. Non, mais c'était des gens chouettes, les gens d'Abibac, je les aimais bien au lycée, bref. Je pense qu'il y a eu... Je suis pas sûre qu'il y ait eu honnêtement un moment où j'étais persuadée que c'était ça que j'allais faire et que j'allais tout faire pour y arriver avant que justement je me retrouve en première année de fac. Là, je me suis dit, là où effectivement, je me suis dit, OK, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être mieux ? Mais jeune, non.
Parce que c'était quoi ta première année de fac ?
Après le bac, j'ai fait une prépa lettres sur les conseils de mes profs, parce que j'avais aucune idée ce que j'allais... Justement, tu vois, j'avais aucune idée ce que j'allais faire. Donc, j'ai écouté mes profs. Donc, j'ai fait un mois et demi de prépa lettres. Donc, les fameux cagne, hypocagne, hypocagne, cagne, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Et j'étais pas bien. je me souviens, c'était en plein milieu d'une nuit blanche pour de la philo, où je me suis dit, je ne veux pas faire de nuit blanche pour la philo, et je veux faire autre chose. Donc j'ai décidé de continuer l'année et d'aller en fac d'espagnol, à l'LCE espagnol, qui était une super année de fac, vraiment hyper intéressante. Et en fait, c'est au courant de cette année-là où je me suis dit que voilà, il fallait peut-être commencer à faire des choix pour soi et pas pour faire plaisir aux profs. Ou aux parents. et c'est là que je suis partie à Lyon. Donc, j'ai passé des entretiens que je suis partie à Lyon pour faire mon école de mode.
Alors justement, je voudrais revenir à faire plaisir aux parents et aux profs, parce que c'était ma question suivante. Pendant toutes ces années d'enfance, d'adolescence, où tu te projettes un peu dans l'avenir, comment réagissaient les adultes autour de toi quand ils te posaient la question de ce que tu veux faire plus tard et que tu réponds ben, un styliste ou d'autres inspirations de métier à l'époque ? Est-ce que tu as la sensation d'avoir été plutôt encouragée ou plutôt découragée dans tes inspirations ? Et pourquoi ? Pourquoi encouragée ? Pourquoi découragée ?
Non, je pense plutôt encouragée parce que mes parents, ils ont assuré pour ça, sympa de faire la distinction du pour ça. Bisous les parents.
Non, je rigole. Les parents.
non, bien sûr, ils ont assuré tout court, mais non, ils m'ont encouragé, pas que les parents d'ailleurs, la famille. Mais c'est vrai que je pense que je me suis pas mal confrontée en fait à l'image que j'avais de moi et que les autres avaient de moi, ou du moins que je pensais qu'ils avaient de moi. Et mes aspirations. En fait, depuis petite, j'adore l'école, donc j'étais très bonne à l'école, toujours des super notes et tout ça. Et c'est pour ça que mes profs m'ont conseillé après d'aller en prépa, notamment parce qu'ils estimaient que j'étais capable de le faire et que ça m'ouvrirait après pas mal de portes. Donc, c'était pour rester assez large, quoi, qu'ils m'avaient conseillé de faire ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis dit, en fait, je vais étudier la mode, au début, même moi, je me suis dit, non, ça va pas avec le profil que t'as. T'étais plutôt littéraire, plutôt intellectuel, la mode, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que les gens qui me connaissaient vraiment n'étaient pas tant surpris. Les gens qui me connaissaient un peu moins bien, avaient ce truc de « Hein ? Mais pourquoi tu vas faire des études aussi, entre guillemets, superficielles que la mode, alors que faudrait que tu sois en train d'étudier du Molière, quoi. » Donc, je pense que ça a pu un peu jouer contre moi. Mais c'était souvent des projections que j'avais de moi-même, en fait. C'est pas forcément ce que les gens me renvoyaient. Donc, non, je dirais que j'étais plutôt encouragée. Et puis, une de mes tantes et mon grand-père sont tous les deux dans l'artisanat textile. Ma tante, elle a été fourreuse pendant longtemps, donc travaille de la fourrure. Et mon grand-père travaille du cuir, donc d'abord en tant que sellier, et ensuite en tant que maroquinier, puis il était aussi tapissier, tout ça. Donc il y avait aussi ce truc dans la famille de l'artisanat, de travailler de ses mains. Donc c'était pas déconnant.
À t'entendre, effectivement, j'ai l'impression que c'était plus tes propres projections des attentes des autres sur toi qui étaient des freins, c'est-à-dire ce que tu viens de dire sur... Enfin, t'osais pas forcément te projeter toi-même dans la mode, des parcours créatifs, et t'as suivi des études plutôt classiques au début. À quel moment tu penses que t'as commencé à avoir cette prise de conscience sur ce que tu disais tout à l'heure, il faut commencer à faire des choix pour soi. Tu le fais après un premier mois de prépa, mais le début de cette réflexion, tu le fais remonter à quand ? Et à quoi surtout ?
Je pense qu'on m'a toujours dit, je dis on parce que je me souviens plus qui exactement, mais je me souviens qu'on m'ait toujours dit faut que tu travailles pour toi, faut que les études elles fonctionnent pour toi, il faut pas que tu fasses des trucs pour faire plaisir à tes parents et tout. Mais néanmoins j'avais toujours quand même ce truc de faut pas que je déçoive, faut que je travaille bien. Donc je pense que ça m'a pas toujours permis de prendre des décisions pour moi parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je joue le rôle correctement jusqu'au bout de la bonne élève. Après, mes parents, ils n'ont pas été beaucoup, beaucoup derrière moi pour que je me mette la pression toute seule. Hein. Ça, il n'y avait aucun souci. Je suis née avec. Il n'y a pas de problème.
Mais je ne pense pas qu'on est née avec, justement. Je pense que la pression, elle vient de quelque part. Alors, elle vient de toutes parts. Il y a une pression évidente qui vient de la famille, pour plein de raisons. Alors, toi, tu as l'air de dire que ce n'était pas ton cas. Et surtout, tu avais de l'inspiration vers l'artisanat au sein de ta famille. Mais une autre source de pression très importante, c'est celle de la société. Et c'est un peu le sens de ma question. Est-ce que tu as eu conscience d'avoir des... Est-ce que tu as eu conscience des origines de cette espèce de conditionnement à il y a des métiers acceptables, il y a des formations qui sont faites pour moi, il y a des filières qui sont pas faites pour moi. Tout ça, c'est des schémas de pensée qui sont construits. Justement, c'est pas de l'inné. Donc c'est un peu le sens de ma question sur... tu finis par avoir cette réalisation en prépa de « Ok, maintenant, il faut quand même que je commence à faire des choix pour moi parce que ça peut pas marcher sinon. » Mais est-ce que tu as un souvenir de à quel moment tu commences à avoir cette prise de conscience forcément progressive ?
Je pense quand ma sœur, elle est partie de la maison pour faire ses propres études. En fait, elle est partie pour faire une mana, mise à niveau en art appliqué. J'étais hyper admirative de ça, en fait. Je me suis dit, voilà, elle a 18 ans, elle se barre, elle décide de faire des études qui la font kiffer, elle soutient des parents, ça, c'est trop cool, c'est une vraie chance. Et j'ai trouvé ça... Ouais, j'ai trouvé ça badass, j'ai trouvé ça inspirant, et je sais que c'est son exemple, je l'ai suivi, et je suis toujours. Du moins, en tout cas, dans le choix des études, tu vois, par exemple, c'est ce côté un peu... ok, allez, maintenant on y va. Après la seconde, j'aurais pu choisir de faire une S ou de faire une L. Elle a fait une L, j'ai fait une L. Elle a fait des cours d'art plastique à côté, j'ai fait des cours d'art plastique à côté. Donc en fait, je crois que je me suis mise dans son sillon en me disant, ça peut peut-être marcher pour moi aussi, quoi. Donc je crois que ouais, c'est l'exemple de la grande sœur.
Alors maintenant, je fais une avance rapide dans le temps. T'as parlé de stylisme et de journalisme. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie ni en étant styliste, ni en étant journaliste. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ?
Les chemins, ma bonne dame. C'est génial.
La vie, life happened.
C'est génial parce que j'aurais tellement aimé qu'on me rassure et qu'on me dise « Alors, tu vas étudier ça, peut-être il va se passer des trucs, peut-être ça va changer. » J'aurais vraiment aimé qu'on me le dise parce que ça m'aurait rassurée, je pense. Parce qu'au final, on est tellement à avoir des chemins comme ça, des chemins complètement tortueux, avec beaucoup, beaucoup de carrefours et de virages, Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, je crois que j'ai à la fois cette grande liberté et des fois cette contrainte qui est de ne pas vraiment savoir ce que je veux faire dans ma vie. Et ce qui fait que du coup, je ne m'interdis pas grand-chose. Donc, s'il y a des opportunités qui m'intéressent, je les prends et je regarde ce qui se passe. Et advienne que pourra, comme on dit. Donc, c'est pour ça, ouais, j'ai étudié la mode. C'était vraiment intense et très enrichissant. J'ai fait mon stage de fin d'études dans, dans la même catégorie. Après, bah, j'avais envie de me mettre à mon compte et de bosser avec les créatrices en tant qu'indépendante. Donc, j'ai voulu bosser avec les créatrices sur le modélisme, le stylisme, donc les aider dans leur travail, dans la conception des modèles, ce que j'ai pu faire avec deux d'entre elles qui sont devenues des amies aujourd'hui. Et puis après, bah, à côté de ça, pour pouvoir continuer à payer le loyer et à manger, et bah, j'ai fait un travail aussi dans la mode, mais en tant que vendeuse, qui était un pendant de mes études que j'avais pas, un pendant de la mode que j'avais pas du tout étudié. Nous, on est plutôt dans la création, mais on gère pas du tout le stock après, ni les ventes et tout ça. Donc, c'était aussi très formateur. Je suis très contente de l'avoir fait. Et puis aussi, arrive un moment donné où on en a marre. C'est quand même dur d'être en surface et d'être vendeuse. Et puis, j'ai eu envie de faire autre chose. Et là, j'ai vu l'annonce de mademoiselle.com qui cherchait une rédactrice mode. J'étais dans le bus. J'avais envie de dire au mec qui conduisait, au chauffeur de bus, arrêtez-vous. Je descends. Je dois envoyer des mails. Et puis, je suis juste sortie à l'arrêt d'après. J'ai pris le métro.
Beaucoup moins dramatique.
Ouais, c'est clair. Dans ma tête, c'était intense. Et donc, ouais, dans la foulée, je suis rentrée chez moi. Je me souviens, en plus, je devais envoyer des patrons pour des vêtements. Et j'ai dit à ma pote, en fait, je t'envoie ça demain si ça ne te dérange pas. Et j'ai tout envoyé dans la foulée. Et puis, 3-4 jours après, j'ai reçu un petit coup de fil de Fabrice Florent. Et puis, c'était parti, quoi, pour l'entretien. Et puis après, tu connais la suite.
Je connais la suite puisque j'ai débarqué, je pense, 2 mois plus tard.
Oui.
Parce que t'es arrivée pendant que moi j'étais en Indonésie.
Tout à fait.
Donc tu fais partie des celles qui ont été recrutées en mon absence, mais pour travailler ensuite avec moi, puisque c'est quand je suis revenue, je suis devenue rédactrice en chef.
Tout à fait. Je me souviens de l'effervescence qui accompagnait ton retour. Parce que moi j'étais dans une autre pièce et je me souviens que tout le monde était arrivé pour t'accueillir parce que ça faisait longtemps que t'étais partie. Et du coup, il y avait tellement de monde autour de toi et j'étais là. Bonjour! Élise, rédactrice. C'est très très impressionnant du coup quand t'as beaucoup beaucoup d'amour autour d'une personne et que toi t'es un peu extérieur et que tu sais pas trop où te foutre, t'es là. Moi aussi je l'aime bien mais je peux pas trop faire comme tout le monde parce qu'on se connaît pas trop. C'était très cool. T'arrivais un peu comme une rockstar, c'était chouette.
Waouh, c'est vachement c'est émouvant en fait d'entendre l'envers du décor parce que j'ai pas du tout le même souvenir évidemment. Enfin. Moi, ça faisait des semaines que je commençais à préparer mon retour, etc. Et bref, c'était une période d'effervescence, effectivement. Et j'étais surtout très, presque anxieuse, en fait, de rencontrer les nouvelles rédactrices dont tu faisais partie. Mais il y avait aussi Esther Meunier qui avait été recrutée, enfin, qui était en stage, mais qui allait continuer à collaborer avec le magazine. Donc, c'est marrant parce que tu parles de cette époque. Je trouve que tu as été métamorphosée en l'espace de 3 ans. Je me souviens à peine de Élise quand on s'est rencontrés en 2016, en septembre 2016, parce que tu dégageais une timidité. Enfin, c'était...
Oui, je suis très timide.
Je sais pas, t'étais presque inaccessible tellement t'étais timide et renfermée. Et aujourd'hui, je te vois face caméra sur YouTube, rayonner de la bonne humeur et de la positivité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce la drogue ?
Ben voilà, écoutez, vous avez compris mon secret.
Les abonnés veulent savoir, ton fournisseur.
Ouais, je fais genre du miam aux fruits le matin en petit-déj, mais en fait, quelques rails de coke et vous êtes bien. Non, c'est faux, bien sûr. Je n'ai jamais pris de drogue, d'ailleurs, pour information.
La drogue, c'est dangereux, ne faites pas voilà. Ça. Voilà, on rigole parce qu'on se connaît, mais soyez sérieux un petit peu. reprenez.
Qu'est-ce qui s'est passé
Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce job, dans cette époque, dans cet environnement qui t'a permis de te développer comme ça, comme un peu une évolution Pokémon où t'as vraiment... Enfin, c'est vraiment une métamorphose, je trouve. Et je pense que ce serait intéressant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je pense en plus qu'il y a pas mal de gens qui t'ont suivi dans ton parcours chez Mademoiselle et qui sans doute font le même constat que moi parce qu'on a quand même beaucoup de vidéos sur Mademoiselle. Ça se voit, en fait.
Oui, ça se voit carrément, même capillairement parlant. Hein, je... La meuf est arrivée avec un petit caressage et puis elle s'est rasée la tête en cours de route. Bon, voilà. Non, mais...
Elle a fait une Britney à mi-parcours.
C'est clair. Mais je pense que... Enfin, on peut en revenir après si tu veux, mais je pense qu'on peut avoir ce constat sur énormément de personnes. Je pense même toi. Je pense que toi aussi, tu as pu arriver à ce constat-là aussi. On est toutes, on a toutes été transformées, je pense, par, le, par l'expérience. Je voulais dire de façon positive.
Mais de toute façon, pour moi aussi, c'est positif. C'est-à-dire que pour moi, si c'était à refaire, je ne referais rien différemment, en réalité. Et effectivement, moi aussi, j'ai été transformée par cette expérience. Je ne vais pas en parler maintenant, car ce n'est pas mon interview, c'est ton interview, du coup. Mais il y en aura d'autres des anciennes dans ce podcast, comme il y en a eu avant, puisque j'ai eu déjà un premier entretien avec Sophie Rich il y a quelques mois. Et effectivement, on parle plus ou moins de la période Mademoiselle. Sophie est partie depuis longtemps parce qu'elle a, elle a fait d'autres projets depuis, donc on s'y est moins attardé, mais on en a parlé quand même. Donc oui, il est évident qu'on est nombreux et on est nombreuses, pardon, à avoir été transformées par cette expérience. Et en fait, dans toute transformation, il y a des choses que tu gagnes et des choses que tu perds. Pour moi, la balance, elle, elle est positive. Pour toi, j'ai la sensation qu'elle est également positive. Ce qui m'intéresse de discuter maintenant, c'est un peu, toi, ton recul sur cette expérience, sur le plan personnel, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu passes de cette jeune femme hyper timide à toi, aujourd'hui, qui rayonne, vraiment, littéralement rayonne. Enfin, t'as un rayon de soleil sur YouTube, c'est, sur Instagram, c'est un truc de malade. Je regardais un peu tes lives Instagram le matin là, pendant le confinement, où t'avais 200-300 personnes qui prenaient le café avec toi le matin. Enfin, ça, c'est un vrai signe de la bonne humeur que tu dégages. Donc, je, pour celles et ceux qui nous écoutent, justement, il n'y a pas une formule magique où tu te réveilles un matin et ça y est, t'es libéré, délivré de l'anxiété et tout, tout va bien, le soleil brille, les papillons sont magnifiques, etc. Ça m'intéresse un peu qu'on s'attarde sur par quoi t'es passé, c'était quoi ton, tes étapes personnelles, en fait, pour arriver à... Bah, aujourd'hui, c'est... t'es pas arrivé dans la vie, t'es pas en train de me dire voilà ma carrière, tout est derrière moi, etc. On fait le bilan. C'est un peu, c'est le début de complètement autre chose, mais tu l'abordes sereinement et je trouve ça fantastique. Et c'est ça que j'ai envie qu'on partage avec les gens qui écoutent.
Je pense que par quoi je suis passée. Merde, j'aurais dû emmener tout un rouleau de PQ au cas où je pleurais, j'en ai que ça. J'en ai qu'un petit morceau, ça fait chier. Non, je suis émue parce que je suis fière, en fait.
Yes.
On va faire pas mal de pauses très longues afin de résorber les larmes et de pouvoir articuler. Il y a une phrase que tu m'as dit un jour et que je n'oublie pas. C'est, au pire, si tu ne fais pas confiance à toi pour faire un truc, fais-moi confiance à moi. Et c'est vrai que même pour ce podcast... Tu me connais, j'aime pas spécialement faire des podcasts, ça m'intimide beaucoup de parler de moi. Mais je te fais confiance à toi, parce que je sais que si tu m'as appelée, c'est qu'a priori, voilà, on avait des trucs à se raconter, et je suis effectivement très contente d'avoir accepté. Donc c'est un truc que j'apprends à faire aussi. Petit mouchage, on revient tout de suite. En fait, je pense qu'un des trucs qui a beaucoup joué... je suis toujours encore timide avec les gens que je connais pas, où j'ai toujours une certaine forme de pudeur, je suis toujours en train de chercher les bons mots, parce que c'est important pour moi de faire passer le bon message, etc. Je suis toujours des fois encore en train d'essayer de prendre le moins de place possible. Donc là, avoir une conversation d'une heure au téléphone où finalement je parle que de moi, c'est un gros, gros step pour moi. Si tu m'écoutes me présenter à un atelier où je dois dire ce que je fais... vite, il faut que je me dépêche de parler parce que c'est pas hyper intéressant et je vais absolument pas gaspiller le temps des gens. Non. En fait, ça, je commence à en avoir marre. C'est bien, je suis auto-soulée par cette espèce d'excuse permanente d'exister. Donc c'est bien, on commence à arriver à autre chose. Je me réjouis pour ça. Et je pense que ça, c'est un truc que Mademoiselle et que toi, que Fab, que l'équipe m'a beaucoup aidée à changer. C'est la place. C'est donner la place, en fait, à la personne de s'exprimer, d'essayer des trucs, la rassurer beaucoup, l'encourager beaucoup. En fait, je pense que même si à titre, on était une équipe et qu'on a beaucoup bossé collectivement, moi, je me suis sentie écoutée à titre individuel et encouragée à titre individuel. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée Dorothée, du coup, pendant les vidéos, a été, pareil, une coach exemplaire qui me poussait tout le temps à faire des blagues, qui m'encourageait, qui riait, qui était mon public, en fait. et c'est pareil, ça donne une confiance qui est hyper précieuse. Et je pense que ça, c'est un truc qui pêche beaucoup dans les entreprises. J'en ai pas fait 1000, pas du tout. Mais ce côté-là, ce côté « je t'entends et je te laisse de la place et je t'écoute », c'est hyper important pour se développer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu et qui m'a beaucoup aidée. Le retour des gens aussi, forcément, parce que c'est public et c'est sur Internet. Et quand tu as des gens qui te disent « Oh, c'est trop cool, merci pour ce moment passé ensemble. Oh, j'ai passé une journée un peu nulle, mais avec tes blagues, ça m'a fait rire. Oh, j'ai une interro de maths, mais c'était pas terrible, mais j'ai regardé ta vidéo et ça allait mieux. Bah, » tout ça, voilà, ça nourrit aussi ce truc de « Je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie, mais faire kiffer les gens, c'est un truc qui me plaît. » Bon, on est déjà sur une bonne piste. Donc, je pense que ça a pas mal joué. Je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir mon copain qui m'a vachement laissé aussi vivre cette expérience-là à fond. Parce que du coup, quand t'es chez MAD, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de raisons de ne pas rentrer chez toi le soir, d'aller à telle présentation presse, d'aller à telle avant-première, de sortir avec les collègues, etc. Il y a une vie très sociale derrière. Et j'ai eu de la chance qu'il me laisse... Enfin, pas dans le sens qu'il me donne l'autorisation, mais je veux dire, il m'a jamais reproché de ne pas être avec lui le soir. Il m'a laissé faire le truc à fond, quoi. Donc ça aussi, j'ai eu de la chance. Et je le remercie pour ça.
Ouais, c'est pas mal en vrai, parce que si je dois résumer, je commence par le dernier point que t'amènes, c'était finalement un bon équilibre dans ta vie personnelle, puisque t'étais dans un couple stable et sain, visiblement, puisque vous arriviez à avoir chacun votre vie sociale sans que ce soit une source de frustration ou de jalousie. Un environnement professionnel dans lequel tu es écouté, mais aussi challengé, parce que ça, c'est l'autre partie de l'histoire que moi j'ai, c'est que c'est quand même vachement exigeant le travail chez Mademoiselle. T'arrives le matin, on choisit des sujets, il faut écrire des articles. Si t'as rien fait de la journée, ça se voit le soir. Donc a priori, les gens ne font pas rien de leur journée, parce que c'est voilà, il y a beaucoup de travail. Donc effectivement, le fait que tu en retires le fait d'avoir été écouté, d'avoir eu de l'espace pour pouvoir t'exprimer, j'allais dire malgré la pression qu'il peut y avoir, mais c'est pas un malgré, c'est juste c'est un travail. Donc en fait, oui, il y avait des contraintes et des exigences. C'est pas la colonie de vacances comme on pourrait le croire sur la base de 10 minutes de vlog, parce que c'est un vlog de 10 minutes, ça n'est pas la réalité du quotidien dans l'entreprise. Et le troisième point que tu soulevais, c'était sur le feedback, le fait qu'on reçoive dans cette expérience-là énormément de feedback. Là-dessus, je te rejoins totalement. Enfin, c'est un tel accélérateur de développement. On parle beaucoup de la violence sur Internet, des commentaires des rageux, des haters, etc. On ne parle pas assez du fait que quand tu te lance sur Internet, à n'importe quelle échelle, avoir du feedback, c'est précieux. Finalement, toi, tu as parlé des commentaires positifs. Moi, j'ajouterais que ceux qui m'ont le plus aidé dans mon expérience, c'était plutôt d'ailleurs les retours négatifs, parce que j'ai appris à faire le tri entre ce qui était vraiment la rage pure, ce que j'appelle les adversaires idéologiques. Voilà, je le dis différemment, mais c'est pour les trolls, qui en soi donnent une information, parce que voilà, si tu déranges par ton discours, ça veut dire que ton discours, il tape quelque part sur des points sensibles. Donc pourquoi ça dérange ? Et bon, on tire un peu sur le fil, ou des critiques extrêmement constructives, même si parfois elles étaient formulées avec violence ou avec pas beaucoup d'empathie, c'est pas grave, ça me permettait de savoir, d'avoir accès à une forme de vérité. Parce que parfois, quand on reçoit du feedback positif, il y a un peu toujours cette. Enfin, moi j'ai toujours cette suspicion de oui, mais c'est pour me faire plaisir. C'est pour être gentil avec moi.
Tu penses que tu ne mérites pas les commentaires en fait, positifs ? C'est faux.
Je pense que j'y crois moins que quand c'est des commentaires critiques ou négatifs. Encore une fois, en fait, quand c'est des commentaires négatifs, j'arrive à faire la différence entre « Ok, ça c'est une personne frustrée qui déverse sa rage sur moi » versus « Ok, ça c'est une personne qui exprime une vraie objection et qui d'ailleurs m'explique pourquoi elle est mécontente de tel point ou tel point. » Et dans les commentaires positifs, j'arrive pas à faire la différence entre quelqu'un qui me fait un feedback positif parce qu'en fait c'est quelqu'un qui m'apprécie moi et qui veut m'envoyer de l'amour à moi. C'est gentil, merci beaucoup. Ou quelqu'un qui me dit vraiment « Ok, en fait, ça, c'est bien parce que... » C'est-à-dire que j'arrive à voir la recette de ce qui va pas dans le détail des commentaires négatifs. J'arrive pas à voir la recette de ce qui va dans les commentaires positifs.
Et c'est pour ça que j'y accorde moins confiance en fait dans le feedback positif. Et c'est aussi pour ça que en tant que manager, j'ai beaucoup bossé sur comment est-ce que tu fais pour justement donner confiance aux gens que tu manages, sachant que a priori si moi j'ai pas confiance dans les feedbacks positifs, juste te dire c'est bien, bon travail, ça suffit pas a priori. Il faut que j'explique qu'est-ce que t'as fait de bien pour que tu le saches et que tu puisses le reproduire. Et ça, c'est vraiment vrai. Balèze.
Je comprends. Après, tu vois, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire un commentaire positif fake. Je ne sais pas comment te dire. Si je dis à quelqu'un que c'est bien, c'est forcément que je le pense, tu vois. Je ne sais pas. En fait, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que les commentaires négatifs nous fassent avancer quand c'est des négatifs, c'est-à-dire... Voilà, qui viennent juste remettre en question ce qu'on dit, hein, c'est pas négatif. Et j'ai de la chance que les commentaires qui se fassent sur que ce soit Instagram ou YouTube soient déjà polis. et hyper constructifs aussi, donc ça c'est top. Mais par contre, pour ce qui est de ma propre expérience, je sais que comme j'avais un vrai problème de confiance en moi, ben pour moi ça m'a vachement aidé à me construire aussi. Mais c'est aussi là où c'est dangereux, c'est que c'est l'extérieur qui te dit que ce que tu fais, c'est bien, que ça a de la valeur, etc. Donc, là où il faut trouver le juste milieu, c'est que ça vienne aussi de toi-même. D'un moment, c'est bien que tu fasses des trucs qui fassent plaisir aux gens et qui soient validés par les autres, mais c'est aussi chouette que tu le valides toi-même. Et ça, c'est venu qu'après. Et je voulais rapidement revenir sur ce que tu disais par rapport au challenge. Je pense qu'un des trucs aussi pour lequel je suis très reconnaissante et qui a été assez formateur pour moi, enfin carrément formateur, c'est que vous me fassiez confiance. Toute l'équipe m'a fait confiance et il y a cette transversalité vraiment importante chez Mademoiselle qui fait qu'on peut à la fois écrire pour la mode, mais aussi pour la musique, pour le cinéma, etc. Qui fait que j'ai fait des interviews que jamais de la vie je penserais faire et qui ont été, mais qui m'ont poussée vraiment dans mes retranchements. Quoi. Franchement, je suis allée 5 fois aux toilettes avant d'interviewer Hugh Jackman. J'étais pas bien, quoi. C'est des vrais challenges. Et je pense que ça, c'est hyper important qu'on vienne te dire « Ah, mais tu crois que t'es pas capable ? Bah, tu sais quoi, encore une fois, fais-moi confiance. Moi, je sais que tu l'es. » Et j'avais tellement plus confiance en vous qu'en moi, à l'époque, que j'y suis allée parce que je savais que vous aviez raison, au fond. Et ça m'a appris après à me rendre compte que, oui, en fait, je suis capable. Mais de moi-même, du coup.
Je suis tellement fière d'entendre que t'as été capable de prendre cette confiance qu'on te donnait pour maintenant l'avoir à ton compte et que justement, t'aies plus besoin de moi pour venir te dire « Fais-toi confiance ». Et que c'est un mécanisme que t'as, un muscle que t'as commencé à travailler toi-même, ça vraiment, grande fierté.
J'ai quand même ta voix au fond de la tête, tu sais. C'est moi qui me le dis, mais je parle encore avec ta voix, hein, tu sais.
Élise, je voudrais qu'on remonte un peu à ton adolescence. Dans cette interview, j'aime bien que mon invité prenne un peu une photo de qui elle était adolescente. Alors tu choisis un âge. Tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là, l'adolescence, on va dire, ça va de 13 à 19, donc les teen years. Et puis tu te décris à quoi tu ressembles, ton style vestimentaire, mais aussi au niveau du caractère, dans quoi tu te projettes, à quoi tu rêves, avec quel type de personne tu traînes. Voilà, j'aimerais qu'on... Sors-moi une photo de ton album de souvenirs d'adolescence, métaphoriquement bien sûr. Il n'y a pas d'image, wow. C'est un podcast.
Ah, c'est dur parce que je pense qu'entre 13 et 19, bah, t'es tellement pas la même personne, donc c'est compliqué de s'arrêter sur une image peut-être plus pertinente, tu vois, plus révélatrice qu'une autre. Très bonne question. Écoutez, ouais, putain, c'est hyper dur. Attends, j'ai pas réfléchi là, merde, Clémence. Franchement, je sais pas. Je suis désolée, c'est le bug intersidéral. Au pire, donne-moi un âge, peut-être ce sera plus facile. Ou une période, le collège ou le lycée.
Peut-être on peut l'aborder par l'angle vestimentaire. Est-ce que tu te souviens d'une période de style en particulier ?
Mais bien sûr.
Alors ?
Alors là, pour le coup, c'est collège. Collège, full année 2000.
Ok.
Super coloré. J'avais vraiment une originalité, je pense, qui m'a permise de me démarquer. Et je pense que j'avais l'impression peut-être que quelque part, ça équilibrait ce côté premier de la classe, première de classe, qui est souvent pas un truc qui t'apporte beaucoup de choses positives, malheureusement. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Et qui m'a valu d'être harcelée et tout ça. Mais ça, c'était plutôt à l'école primaire. Et donc, du coup, je pense que le côté original dans le style, c'est venu contrebalancer ça, en fait. Je sais pas si c'est très clair.
Si, si. Mais décris-moi un peu l'originalité de ce style, car j'ai besoin de visualiser.
Alors, je peux te faire le look de la tête aux pieds. Alors, yes. Je me souviens d'une fois où je m'étais faite des espèces de couettes à la Fifi Brin d'Acier. J'avais pris des Scooby-Doo. de couleurs et je les avais entourées autour de mes couettes. Donc ça les rendait super rigides et super colorées. Bon, ça, je l'ai fait qu'une seule fois parce qu'après, je me suis fait emmerder dans les toilettes des filles. Mais j'ai trouvé ça très, très fun. Mais souvent, j'avais une fleur dans les cheveux qui venait du mini-mag, peut-être, parce que j'aimais bien. J'avais une veste en velours violet, hyper cintré. Des t-shirts très, très colorés, jaune, bleu, voilà. Ah oui, des fois, en coupe de cheveux aussi, je m'entortillais les cheveux et puis je les mettais avec une pince. Je les mettais avec une petite pince et du coup, ça me faisait une tête. Mais c'est très, 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 très Gwen Stefani dans les années 2000, tu vois. Une tête avec plein de petites tournicotis. D'ailleurs, j'ai la mère d'une pote qui, encore aujourd'hui, hein, des dizaines d'années plus tard, qui me dit « Ah, mais c'était pas ta pote, là, qui se coiffait comme ça, là, avec les trucs sur la tête. » Donc, elle me connaît que comme ça, hein. J'avais des pantalons taille basse très serrés et des chaussures roses. Voilà, donc full coloré, très 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 coloré.
Qu'est-ce que t'écoutais comme musique ?
Hyper mainstream, M6 Music, FunTV, MTV. Un peu de R&B, un peu de... Qu'est-ce que j'écoutais ? Enrique Iglesias. T'as dit ça, R&B ? Justin Timberlake, les Spice Girls. Bah, forcément, j'ai une grande sœur de 6 ans, mon aînée, donc ça aussi, ça conditionne un peu les goûts. Je connais l'intégralité de Pierre-Paul Jacques grâce à elle. les Destiny Child, Beyoncé, voilà, ce genre de trucs. Qu'est-ce que d'autre ? Je faisais de la danse, je faisais encore du chant au tout début du collège. Très, très cœur d'artichaut. Je m'amourachais, comment on dit ça ? Je tombais amoureuse, ouais. Pas tous les quatre matins, mais j'avais des amoureux, ouais, j'avais des copains.
Le collège, c'est très tribal comme organisation. Il y a les intellos, les sportifs... Les théâtreux, chez moi c'était ceux qui faisaient du théâtre. Toi c'était quoi ta tribu ? Tu traînes avec quel type de gens ?
J'étais pas une cool kid, clairement pas. Je pense que la période de l'école primaire m'avait suffisamment donné de billes pour éviter d'être harcelée au collège. Donc j'étais avec les autres intellos de ma classe. Mais on était quand même un peu cool. Un peu entre les deux, tu vois. On était plutôt bons en sport, on faisait des blagues. Ouais, on traînait avec les skateurs un peu, mais j'étais pas vraiment dans le skate non plus, tu vois. Je sais pas, il y a un peu des alliances qui se créent, tu sais, comme en prison. Genre pour être sûr que personne vienne te faire chier. Moi, c'était les skateurs, voilà. Ils prenaient soin de moi.
oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est important, effectivement. C'est pas vraiment possible d'éviter le harcèlement scolaire parce que c'est la faute des harceleurs. En revanche, le harcèlement scolaire, il découle souvent de dynamiques de groupe toxiques. Et que la meilleure façon d'éviter de tomber dans une dynamique de groupe toxique, c'est d'avoir un groupe et d'être dedans. Et même si c'est pas le groupe des cool kids, il vaut mieux un groupe que pas de groupe. Parce que quand on est tout seul, c'est là qu'on risque d'être pris le plus pris possible. Mais voilà, je veux juste préciser pour pas que des gens pensent qu'il y a une martingale contre le harcèlement scolaire, c'est compliqué.
Non, t'as tout à fait raison, merci de ces précisions.
Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'adolescente que t'as été ?
Je vais donc me moucher.
J'ai deux, trois questions, mais c'est bien. Je sais que je vais te faire pleurer, mais bon.
Parlons de ça, en fait. Je suis hyper fière parce que je pense que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et je pense qu'on peut dire aussi que c'est grâce à moi et aussi grâce aux parents, parce que encore une fois, j'ai eu des parents cool qui m'ont permis de partir en colo, qui m'ont permis de faire les études que je voulais, etc. Je suis fière d'elle aussi parce que maintenant je sais comment elle fonctionne. Allez, à tout à l'heure. N'hésitez pas à aller vous faire un petit thé.
Est-ce qu'on va parler d'hypersensibilité maintenant ?
Très bonne question. Oui, c'est ça, bien sûr. En fait, je suis fière d'elle et à la fois je suis un peu désolée pour elle parce que j'ai mis du temps à comprendre comment elle fonctionnait et en même temps je m'en veux pas parce que juste j'ai fait avec les infos que j'avais et avec l'entourage que j'avais et qui était pas au courant de ce que c'est. En fait, même j'ai l'adolescence mais je pense que je peux aller encore jusqu'à il y a 5 ans, même encore plus récemment. J'étais une adolescente assez, je peux dire, assez drama. Mais parce que l'adolescence aussi, je trouve qu'il y a ce côté drama que j'ai adoré, hein, personnellement. Tout prenait des proportions immenses. Il se passait des trucs de ouf. Tu te racontais, c'était comme si tu faisais un débrief des feux de l'amour en cours de récré. C'était génial. Mais je suis contente de savoir aujourd'hui pourquoi j'ai été dans certaines situations, pourquoi j'ai vécu certains trucs plus difficilement que peut-être d'autres personnes l'auraient fait ou l'auraient vécu. Et je pense que d'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris, notamment pendant que j'étais chez Mademoiselle. Ce que c'était que l'hypersensibilité, que j'étais pas la seule, parce que c'est ça, en fait. Je pense que j'étais timide, mais je me suis sentie aussi très isolée par rapport à ça. C'est parce que je retrouvais pas autour de moi d'autres personnes qui étaient aussi hypersensibles que moi. Alors aujourd'hui, je pense que en vrai, si, il y en avait d'autres, c'est juste qu'on s'exprimait pas de la même manière. Mais je pleurais pour tout, tout le temps. Je pleure toujours encore beaucoup, mais c'est OK. Je pleurais quand ça allait pas, je pleurais quand j'étais en colère, je pleurais quand j'étais émue, je pleurais quand j'étais amoureuse, voilà, je pleurais beaucoup. Et ça m'a été beaucoup, beaucoup reproché par les autres, par mes parents, par le milieu du travail aussi, après. Mais aujourd'hui, ouais, je sais que c'est pas... Tu sais, il y a ce truc un peu de « Ah, oh, c'est un défaut !» Non, mais elle pleure, c'est un défaut. En fait, non, littéralement, c'est comme si tu me coupais un bras. C'est-à-dire, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Et j'aimerais juste dire à ceux ou celles qui nous écoutent que vous n'êtes vraiment, vraiment pas seuls. C'est-à-dire que si vous dites « Non, mais elle, franchement, moi, je suis... elle dit qu'elle est hypersensible, mais elle n'est pas hypersensible au même niveau que moi. » Je te jure que si. Vraiment. Donc... déjà, voilà, moi j'aurais aimé qu'on me dise t'es pas seule, c'est pas un truc déconnant, ça fait pas de toi une personne fragile, il faut juste que t'apprennes à le maîtriser. Et je pense que ça, c'est un truc que j'aurais aimé qu'on me donne ado. Donc, ouais, quand je pense à l'ado que j'étais, j'ai envie de lui faire un gros câlin et j'ai envie de lui dire en fait, tout va bien, c'est juste qu'il faut que t'apprennes qui tu es et ça va le faire. Aie confiance. Ouais.
Et elle, l'ado que tu as été, quel regard elle porterait aujourd'hui sur la personne que t'es devenue?
Elle me ferait quoi? Elle me ferait quoi? Bah attends, parce que ado, je lisais Mademoiselle, tu vois. Donc elle me dirait, hein? T'habites genre vers Paris maintenant, alors que t'as toujours dit que t'irais jamais parce que t'aimes pas, c'était trop pour toi la capitale. Quoi? T'as travaillé chez Mademoiselle, t'as écrit. Attends, t'as une chaîne YouTube? Attends, mais il y a encore quelques mois, tu faisais des blagues avec la caméra de ta pote Clara, vous faisiez des génériques de films et vous reprenez Queers, bon, c'est l'équivalent de Queer Eye français dans les années 2000. Je pense qu'elle serait, mais... Elle serait hallucinée. Elle aurait hyper hâte, je pense, d'arriver à l'âge que j'ai aujourd'hui. Ouais, je suis contente pour elle. J'ai l'impression que je l'ai plutôt bien écoutée. Et que j'ai plutôt bien écouté ce que j'avais envie de faire. J'ai essayé, en tout cas. Ouais.
Élise, la partie suivante, c'est un choix. Mm-hmm. Puisque je voudrais qu'on parle de l'architecture de ta vie. Alors, soit on fait comme si ta vie était un film, et tu vas me raconter le film de ta vie, sa bande originale, le déclencheur de l'intrigue, etc. Soit on parle de ta zone de confort, comme si c'était une pièce dans ta maison, et tu me décris l'intérieur de la pièce, à la fois ce qu'on y trouve comme élément matériel ou immatériel, des leçons de vie, des motos, enfin, tout ce que tu veux.
Des motos. Pardon, ça me fait rire. J'ai aucune passion pour la mécanique, c'est pour ça que ça me fait rire.
Je sais pas comment dire en français, là, motos, je sais pas
comment. Ouais, les devises.
Devises, les devises, merci beaucoup. Voilà, maintenant, ce serait pas ridicule la prochaine fois, tout va bien.
Non, j'avais compris, c'est pour chipoter. Bah, le film, c'est plus marrant.
Le film, très bien. Alors, si ta vie...
J'ai le droit de faire un truc un peu fun.
Ah, bien sûr, bien
sinon,
sûr.
Sinon, on se ferait chier, sinon.
Alors, c'est le film de ta vie, donc c'est toi qui choisis le scénario, tout ce que tu veux. Ça peut être... tu sais, souvent, les biopics, c'est soit sur un moment marquant de la vie de la personne, soit c'est une aventure incroyable. Enfin, c'est toi qui es scénariste, donc c'est toi qui choisis. Tu es totalement libre. Si ta vie était un film... Quelle serait sa bande originale?
Est-ce qu'on peut faire une comédie musicale? Et comme ça, c'est moi qui chante.
on peut faire tout ce que tu veux. Budget tous illimité.
Les personnages. Tous les personnages chantent. Parce que je chante tout. Tu vois, je suis un peu comme Marshall dans How I Met Your Mother. Donc je chante quand je fais la vaisselle, je chante quand je me tape le pied dans la table. Voilà. Donc on ferait ça. On ferait une comédie musicale avec à peu près le même goût vestimentaire que les costumes de l'époque de Notre-Dame de Paris. Tu vois, un peu cette esthétique-là, ou tout ce qui est années 2000, voilà. je suis full revival des Starac qui repassent sur YouTube. Et c'est vrai que je me dis, putain, quand même, les années 2000, c'était quelque chose, quoi. Voilà, beaucoup, beaucoup de nostalgie, mais aucune envie d'y retourner.
Ok, donc, comédie, ouais. Comédie musicale, ouais. Mais quel type de comédie musicale, quel type d'histoire en fait? Est-ce que ce serait plutôt une comédie, un drame, une aventure? C'est quoi le film de ta vie?
Comédie-aventure, comment dire? Réjouissante, tu vois. Un truc où t'as envie de claquer des doigts, il se passe des trucs réjouissants, t'as envie de chanter avec les personnages, t'es pas saoulé par, par le personnage principal, j'espère, ça peut arriver des fois. Je pense que ce serait une comédie musicale où l'héroïne, elle chercherait qui elle est vraiment, tu vois.
Ok.
Mais en passant par des trucs justement un peu fun, il y aurait aussi un peu des moments mélos, tu vois, bah justement, je pourrais faire une Louane. Quand j'annonce à mes parents que je m'en vais à Lyon pour étudier la mode, par exemple, tu vois. Je vois mes chers parents, je pars. Voilà.
Mais justement, quel serait l'élément problématique qui déclenche l'intrigue? Qu'est-ce qui lance l'histoire de ton film?
Je pense que j'aimerais bien un truc un peu powerful, de justement la petite fille qui se fait emmerder à l'école primaire, qui se fait dévisser les éléments de son vélo au point qu'elle se fait quasiment percuter par une voiture. Et puis là, tu aurais toutes les sœurs, tu vois, les copines de la grande sœur qui viennent et qui défoncent les mecs. Ne faites pas de trucs violents chez vous, s'il vous plaît. C'est juste pour l'histoire du film. Et puis, du coup, voilà, qui reprend confiance, qui reprend le pouvoir et qui décide de continuer ses études, de réussir ses études, d'avoir son bac, et puis qui décide que finalement, les études, c'est pas fait pour elle de la façon dont on attendait, tu vois, qu'on attendait d'elle, et qui décide de se barrer. Donc, l'élément déclencheur, c'est la reprise de pouvoir sur sa condition actuelle. Voilà. Ça va ou pas? Ça passe?
Très bien.
Tu me donnes l'argent?
Je valide la production. Si ta vie était un film, quel serait le ou les personnages qui débarquent juste au bon moment pour te prêter main forte? Sidekick, mentor, qui vient? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font pour te filer un coup de main?
Bah, juste après la décision de partir, ce sera les parents qui aident, tu vois, qui soutiennent à mort et tout. C'est déjà. J'aimerais bien faire un tableau avec tous les gens avec qui j'ai fait les écoles de mode, parce que si tu as déjà fait des études qui t'obligent à ne pas dormir, tu sais que c'est des, j'appelle ça des copains de tranchée. C'est un peu hardcore, mais c'est ça, t'as un peu l'impression que t'as fait la guerre avec eux. Donc j'aimerais bien un tableau, tu vois, avec tout le monde dans un atelier en train de faire du modélisme et tout ça, avec les tissus qui s'envolent. Donc le côté entourage, donc les amis qui viennent aider, tu vois, moi j'ai des colocs, ils m'ont cousu des boutons la veille de ma présentation de fin d'année, jusqu'à 6h du mat. J'ai dormi une demi-heure avant la présentation de mon dossier de fin d'année. Donc voilà, c'est plutôt l'entourage, je pense. Je pense qu'on peut parler de Fab, de toi, de Mimi aussi, hein, comme mentor, tu vois, de « Tiens, prends ton envol !» Voilà, ça aussi, tiens, on te présente au monde, tu vois. Donc vous aussi, vous auriez un rôle. Hâte de te voir danser, Clémence. Je mettrais une perruque ridicule à Fabrice, non, c'est pas vrai. Parce que je me souviens qu'une fois, j'avais dessiné une perruque de Polnareff sur lui, dans un des articles de Mademoiselle, et je ne regrette rien. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vous, en fait. Hein, c'est vous, c'est les amis, c'est tous ceux qui sont là pour soutenir et pour donner confiance, en fait.
Si ta vie était un film, qui est le méchant de l'histoire? Qu'est-ce qui débarque? Qu'est-ce qui vient foutre un pavé dans la mare et perturber tes plans?
Bah ouais, je t'ai dit au début, c'est les gens qui m'ont fait chier quand j'étais à l'école primaire. Donc là, déjà, c'est... Ouais. Je sais pas... Tu sais, des fois, je me dis, mais non, mais t'as pardonné. C'est bon, on passe à autre chose. Et en fait, des fois, je me dis... Ah, peut-être que j'aimerais quand même leur dire en vrai. C'est Kat, tu sais. Des fois, je crois que j'aimerais bien régler ça... avec l'adulte que je suis maintenant, en fait. Comme si je devais prendre un peu soin encore de l'enfant blessé. Donc, peut-être que eux, et puis... ça fait peut-être un peu Rocky Balboa, mais je ferais bien que la méchante de l'histoire, c'est un peu moi aussi, parce que je suis toujours... Là, franchement, je pense que je rentre dans une période de ma vie qui est beaucoup plus sereine, et je me réjouis pour ça. Je sais que ça va demander pas mal de taf, mais... Je sais qu'à une époque, clairement, je me mettais des bâtons dans les roues, parce que j'avais trop peur d'essayer et de foirer. Et de très très mal vivre l'échec, parce que, bah, en fait, comme j'étais très bonne en classe et tout ça, j'étais une fille gentille et tout, à qui on reprochait jamais rien, j'avais très très envie que les gens m'aiment et j'avais très très besoin de sentiments d'appartenance, etc. Et je me disais que si j'échouais, bah, je perdrais le groupe, je perdrais l'amour, je perdrais le respect, etc. Ça va, là j'ai compris que c'était pas ça, que ça tenait, que j'avais plus de valeur que mes échecs. Et ouais, powerful cette phrase. Mais du coup, je pense que ouais, ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi, la méchante de l'histoire. Mais à la fin, elle se découvre et elle est en paix avec elle-même, donc ça va.
Bah justement, si ta vie était un film, après quoi tu cours? Quel est ton but? c'est quoi l'objet du film ?
Bon, une quête d'identité personnelle. C'est pas très original, je crois qu'il y a pas mal de films qui font ça. Mais ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, et puis je pense que c'est un chouette but dans la vie. Je dis toujours que je sais jamais ce que je veux faire professionnellement dans la vie, et pour être honnête, je suis pas sûre que, même à quasi 30 ans, j'ai trouvé. Hein. Y a des jours où ça va bien, où je suis en paix avec ça, et des jours où je suis pas du tout en paix, où je me dis « Putain, là, pourquoi je suis pas comptable ?» Ça aurait été tellement plus simple. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de mal avec l'administratif et avec les chiffres.
Donc pas plus simple en réalité.
Non. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie d'être bien avec moi, de savoir qui je suis, de connaître aussi mes aspirations en tant que personne, d'asseoir un petit peu mes valeurs et d'arrêter de suivre plutôt les valeurs des gens que je respecte parce que j'ai envie d'avoir leur respect en échange, tu vois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça le but de la vie. J'ai bien envie de savoir qui je suis au fond des tripes.
Merci pour cette plongée dans le film de ta vie.
J'espère que vous viendrez tous, ils seront en salle mercredi dans 2 ans, quand les cinémas rouvriront, voilà.
Quel optimisme pour la réouverture des cinémas.
Non, mais je leur souhaite d'ouvrir demain, ça me manque le cinéma.
On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée ? Laquelle et pourquoi ?
Bah, tu vois, quand tu m'as envoyé la liste des questions, parce que Clémence, elle sait que j'aime bien préparer les questions en avance, et tu as fait la comparaison avec Hermione Granger, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un des points qu'on a en commun d'ailleurs, toi et moi, toi aussi t'es une Hermione.
C'est pas mon interview que j'ai dit, chut.
C'est un défaut, tu sais que j'aime bien retourner les questions, c'est un peu relou. Des fois, j'ai une pote qui m'a interviewée l'autre fois sur un compte, et en fait, finalement, j'ai retourné le truc. Bref. Ouais, c'est ce que je te disais, en fait, j'ai lu les questions et je me suis dit, putain, je sais pas quoi répondre. Parce que je parle beaucoup des études depuis le début, parce que c'est un truc auquel j'ai accordé beaucoup d'importance et j'accorde toujours beaucoup d'importance. J'aime apprendre profondément. Je pense qu'un des trucs qui m'a le plus marqué, ouais, c'est le fait d'avoir été emmerdée à l'école, je pense. Ça m'a vachement blessée et je pense que ça m'a bousillé et que j'ai dû reconstruire pas mal de trucs derrière que je suis toujours encore en train de reconstruire. Je dis pas que c'est la faute de tout ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, mais ouais, je pense que c'était un sacré challenge. Je pense que mes parents ont essayé de faire comme ils ont pu avec les outils qu'ils avaient à l'époque. On parlait vachement moins de harcèlement scolaire dans les années 90-2000 que maintenant. Heureusement, je suis contente que ça commence à se déployer. Ouais, franchement, je suis vraiment désolée, je sais pas quoi te dire. Parce que je pense qu'on a tous eu des obstacles. Enfin, je pense pas que j'ai eu un obstacle qui m'est...
Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose de précis dans le temps, mais je vais pas faire comme si je te connaissais pas. On a bossé pendant 3 ans ensemble. Je t'ai toujours trouvée très, très anxieuse. Et depuis quelques mois, je te trouve très détendue, très épanouie.
Ah, mais ça, alors, c'est le confinement, ça. Hein,
soit tu
ça,
te donnes très bien le change et tu fais très bien semblant, soit il y a quelque chose qui s'est passé... dans ta vie, pas forcément du jour au lendemain, encore une fois, c'est peut-être sur le long terme, mais entre un début d'enfance-adolescence marqué par le harcèlement scolaire, une vie étudiante et un début de vie professionnelle mouvementé, et c'est en bien et en mal, hein, c'est mouvementé, et aujourd'hui, une sérénité qui se dégage de toi que, franchement, j'avais assez peu vu quand on travaillait ensemble, je me demande comment t'as dépassé ça. Enfin, l'anxiété, je pense que c'est un problème qui touche énormément de gens, énormément de jeunes femmes, et d'autant plus en cette période très particulière. Et je trouve intéressant qu'on prenne un moment pour en discuter. Est-ce que c'est moi qui me trompe ? Est-ce que j'ai halluciné, t'étais pas du tout anxieuse et je projetais ma propre anxiété sur toi ? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un changement ? Comment tu l'analyses ? C'est quoi ton recul là-dessus ?
Non, bah, je suis carrément anxieuse. Non, tu t'es pas trompée. Non, non, je pense que je suis toujours encore de nature anxieuse. Peut-être que ça... Enfin, je sais pas. Je me dis qu'il y a moyen que ça continue à faire partie de moi pour toute la vie. Mais à peut-être une échelle moins importante. Franchement, on parle du confinement pour déconner, mais en vrai, je pense que ça a aidé aussi pas mal. Parce que je passe beaucoup de temps avec moi. Et en fait, je me rends compte que... Oui, parce que du coup, je passe le confinement seule. Je me rends compte qu'en fait, je suis une meuf, c'est cool, je suis une meuf cool, tu vois, je m'aime bien. Et je commence à avoir de plus en plus confiance dans ma capacité à faire des choix qui sont bien pour moi. Et l'autre jour, je te parlais du fait d'être validée en permanence par les autres, par la société. Encore une fois, comme je te disais, pour moi, le fait de, d'être aimée par les gens que j'apprécie, de me sentir appartenir à un groupe, c'est des choses qui sont très, très importantes pour moi. Mais j'ai de moins en moins envie de dépendre de la validation des autres pour faire une action, pour mener un projet, sur la façon dont je suis censée être physiquement et sur la façon dont je suis censée me sentir. Donc, je crois que ça aide beaucoup. J'ai envie d'en avoir plus rien à foutre. Et je pense que ça, c'est... En fait, en vrai, c'est assez serein. Mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon empathie. C'est-à-dire que j'aimerais bien en avoir rien à foutre de la validation des gens, mais par contre, je serais toujours sensible à la façon dont les gens sont avec moi. Ça commence à être méta. Ça va, tu me suis ou pas?
je te suis complètement. Je te suis complètement et je pense que c'est un paradoxe sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Et moi, ça m'a amené à la conclusion que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que la première partie de ce que tu viens de dire, je passe le confinement seule, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Ça, c'est une partie qui est complètement indépendante, c'est-à-dire être bien avec soi. Et en fait, la deuxième partie qui est comment je reçois le jugement des autres, tu parles de validation, ben, plus largement on peut parler de jugement ou de critique, c'est si t'es bien avec toi-même, en fait tu peux recevoir le jugement des autres sans que ça t'affecte. Donc tu peux leur envoyer ce qu'ils ont éventuellement besoin de recevoir parce que t'as une relation à entretenir, sans que ça t'affecte. Et donc par exemple, faudrait prendre un exemple concret pour que ce soit clair ce que je raconte, mais quelqu'un qui serait très critique de ton travail, bah, t'arrives à prendre la critique sur le travail sans que ça t'affecte, parce que, vu que t'es bien avec toi-même, ça remet pas en question ce socle-là, ça remet en question éventuellement l'appréciation que t'as de ton travail. Mais pas en entier, c'est-à-dire que ça fout pas tout par terre, parce qu'encore une fois, t'as un socle solide, ça remet en question, ok, moi je croyais que ça c'était super bien 10 sur 10, j'ai un retour à 2 sur 10, qu'est-ce qui déconne? Et donc t'arrives à faire ce travail d'analyse sans que ça ne coûte une charge émotionnelle. Mais ça n'est possible que si t'as le socle de confiance en toi, parce que c'est ça en fait le truc de je suis bien avec moi-même, ben, c'est de l'estime de soi, de la confiance en soi, enfin tout ce qui est le sur-soi là, tout ce socle de sur-soi. Ce qui fait que tout ce que tu peux avoir comme interaction chargée, on va dire, ne vont pas affecter négativement ce socle. Ça peut le renforcer, mais ça ne peut pas l'attaquer, parce que de toute façon, la base, c'est toi avec toi.
Ouais. Bah, ce socle-là, ouais, je suis en train de mettre des petites briques, un petit peu de ciment, tout ça. Après, je sens que je suis encore assez fragile, ça va dépendre de quoi, ça peut être très très perso aussi, tu vois, c'est peut-être plus mes relations vraiment avec mes amis et tout. Mais ouais, je pense que professionnellement, en tout cas, ça commence à se renforcer de manière plutôt intéressante. Après aussi, pour être transparente, comme on aime dire, peut-être que tu me trouves moins anxieuse parce qu'on ne travaille plus ensemble et que je continue à être quelqu'un de très exigeant dans le travail. Et c'est peut-être aussi cet aspect-là que t'as plu et qui te donne l'impression que je suis, mais alors, pisse. Donc, viens, on retravaille ensemble, tu vas voir, ça, c'est probablement, c'est autre chose.
Élise, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie?
Je pense qu'il y en a... Il y en a plusieurs. Il y a ma pote Hello, qui je pense qui tu sais, je parle du travail et tout ça, mais je sais que mes proches, mon mec, mes meilleurs potes et tout, ça m'aide aussi beaucoup à construire le socle et à me donner des billes pour appréhender la vie un peu plus sereinement. Un des meilleurs conseils, c'est d'y aller étape par étape. Parce que justement, en fait, souvent, je vais m'engouffrer directement dans le projet en voyant tout en même temps et du coup, je vais être là, oh mon Dieu, je suis submergée, je ne vais jamais y arriver. Alors que quand tu poses tout à plat, et ça, pour le bullet journal, c'est pas mal, ça t'aide justement à savoir en fait par quel bout prendre le truc et y aller progressivement. Donc ça, c'est une méthode que tu peux appliquer pour tout dans la vie, même pour une recette de cuisine. De faire les choses plutôt que de ne pas les faire, même si elles sont pas parfaites. Je pense que, ouais, comme j'intellectualise beaucoup, je vais avoir tendance à pas faire parce que je vais avoir peur de... échec. Et du coup, je vais me dire, ah non, bah, je peux pas le faire parce que ça va pas, parce que cette caméra n'est pas assez bien, parce que ce micro n'est pas d'une meilleure, très bonne qualité. Voilà, donc je vais me chercher toutes les excuses du monde pour pas me lancer, alors qu'il vaut mieux faire un truc plutôt que... Enfin, qu'il soit pas parfait plutôt que de ne rien faire du tout. Ça marche bien. Ouais, je crois que c'est les deux meilleurs conseils qu'on m'ait donnés.
Quel conseil, toi, tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent, et je pense en particulier aux plus jeunes, aux lycéens, aux étudiants, à tous ces gens qui sont en train de travailler pour leur avenir, à qui on rabâche de passer leur bac d'abord et de bosser pour leur avenir, et dont l'avenir n'a jamais été aussi flou. Parce que bon, déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, la crise écologique, c'était une perspective d'avenir assez glauque. Mais là, on en est à ne pas savoir, dans les prochains mois, quand est-ce qu'on pourra retourner au cinéma, au théâtre, partir en vacances. Enfin, je veux dire, la promesse d'avenir, déjà de mon temps, je trouvais ça peu crédible. Mais alors là, moi, si j'étais en train d'étudier là maintenant, je ne sais pas où est-ce que je trouverais la motivation de préparer l'avenir. Donc en fait, j'aimerais, parce que tu as cette créativité, tu te dégages, je le disais à plusieurs reprises déjà, cette positivité. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes? Où puiser de la ressource? En quoi croire? Comment aller bien?
Je me pose les mêmes questions. J'ai beau avoir passé le bac il y a 10 ans, je me pose des questions sur à quoi ça va ressembler la suite. Je crois que j'ai envie de continuer à y croire, à croire dans les initiatives, justement, dans le fait qu'on peut changer notre façon de consommer, notre façon d'être, de prendre... Tu vois, je parle souvent de l'artisanat, du local, la slow fashion, etc. Bon, parce que voilà, le vêtement, toi-même, tu sais un peu mon truc, quoi. Je dis vague. Vague. Pardon. Écoutez, je suis toute seule, ça fait 50 jours, laissez-moi tranquille. Absolument rien à voir. Ce que je voulais dire, c'est que si j'étais à leur place, je crois que j'essaierais de continuer à faire des trucs qui ont du sens pour moi, que ça soit justement de créer ou bien d'essayer de travailler dans les études et tout, d'essayer de faire des trucs qui vous parlent à vous. Bah c'est vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait. De faire un truc qui me parle à moi plutôt que de faire quelque chose qui fasse plaisir aux parents, même si je sais que c'est compliqué de se défaire de cette pression-là. Mais vraiment, si vous y arrivez, c'est trop cool. Et de vous dire qu'il n'y aura pas un chemin tout tracé parce que vous allez en prendre plein et que c'est littéralement ce qui arrive à tout le monde. Je ne connais personne de notre génération. Ça, c'était encore celle de nos parents. Je ne connais personne qui a une vie toute droite, toute tracée, qui a choisi un métier dans sa vie et qui le fait jusqu'à sa mort, encore une fois. Je pense que ça, c'est un truc qui est plus de notre génération du tout, et encore moins avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, gardez la foi, gardez confiance, j'allais plutôt garder confiance dans la suite. Je sais que c'est hyper dur. J'aimerais avoir des mots hyper forts que vous, à la fin de ce podcast, ouais, à la fin de ce podcast, vous vous disiez, c'est bon, j'ai la joie, j'ai la rage de vivre là, ça va le faire. J'aimerais bien trouver ces mots hyper rassurants. Je lis pas dans l'avenir, malheureusement. Mais ouais, continuez vraiment, en fait, à ça. Pour moi, le plus important, c'est continuer à faire des trucs qui ont du sens pour vous. Parce qu'à partir de ce moment-là, t'es en paix avec toi et t'es en paix avec ce que tu fais et tu te donnes à 100% dans ce que tu fais. Donc en fait, si demain, vous aviez 18 en maths et 20 en littérature et qu'en fait, vous en battez la race et que vous avez envie de cultiver des légumes, s'il vous plaît, faites-le. Ne vous arrêtez pas à des étiquettes qu'on vous a collées ou que les autres vous ont collées, quoi. Écoutez-vous, s'il vous plaît, écoutez-vous.
Élise, c'est quoi ta plus grande fierté?
Alors, ma plus grande fierté du jour, c'est ce podcast, Clémence. Bah, c'est vrai, attends.
La réponse est refusée. Parce que c'est pas sur aujourd'hui. Il est midi, là. C'est pas juste, ok.
Merde, je pensais que ça allait passer.
Non.
Non, ma plus grande fierté, moi, c'est d'avoir compris un peu mieux qui j'étais, vraiment. Et c'est peut-être un peu cliché, le truc de vieillir, c'est trop bien, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux dans vos pompes et tout. Mais c'est un vrai truc, en fait, vraiment. Je pense que je me sens beaucoup mieux avec qui je suis maintenant que quand j'avais 19 ans. Je crois que j'aime bien être à la rencontre de qui je suis. Je suis fière aussi des gens qui sont dans ma vie. Je suis fière des rencontres que je fais au quotidien et des gens qui me font confiance et qui sont formidables et que, voilà, ouais, qui partagent ma vie. Donc je suis fière des gens et fière de moi. Voilà.
Merci beaucoup, Élise. On arrive sur la fin de cette interview. Pour finir, je vais te poser la série de questions pile ou face. Donc, le but du jeu, c'est que tu répondes si tu es plutôt A ou B. Tout le monde est un peu des deux, donc ne joue pas à ça. Choisis ton camp camarade. Tu as le droit de m'expliquer si jamais il y a une question à laquelle tu ne peux pas ou tu ne veux pas répondre. On n'y répond pas, mais j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Ça marche ?
D'accord. Ouais, ok.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Non, je suis plutôt optimiste.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
Anxieuse, mais toi-même, tu sais, ça commence à changer.
Yes. En règle générale dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir ?
Je crois que je suis plutôt nostalgique. Surtout quand on est dans une période justement comme ça où c'est dur d'être super méga excitée par ce qui va se passer parce que wow, ça fait peur. Donc non, je crois que je suis plutôt nostalgique, ouais.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou team travailler maintenant pour profiter demain ?
Franchement, il y a encore 2 mois, je t'aurais dit travailler maintenant pour profiter demain. Mais je pense que s'il y a bien un truc que le confinement m'a appris, c'est que on sait pas trop à quoi ressembler demain. Donc aujourd'hui, c'est bien. Non, je crois que j'ai envie d'envisager le travail ou ma façon de travailler différemment, clairement.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente ?
Je suis très, très prudente. Je pense à mon mec qui scie des trucs, des fois il est pieds nus, ça me fait péter un câble. Je pense à ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement peur qu'il arrive un truc aux gens que même des fois quand ils vont me dire « Ouais, c'est génial, j'ai acheté une trottinette », je vais te la mettre, tu mets un casque s'il te plaît, et puis tu mets des coudières aussi, des genouillères, et puis tu restes sur le trottoir, ok ? On s'en fout. Voilà, donc un peu comme ça. Et en même temps, je crois que ça relève de l'optimisme, je crois que je suis confiante dans la vie. En règle générale. Donc j'avoue, c'est un peu des deux. Peut-être j'ai un peu triché dans la réponse.
Je l'accepte. Néanmoins, je l'accepte vu la justification. En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique ?
Ah, je suis plutôt bordélique, putain. Je suis bordélique dans mon espace. Non, je suis bordélique dans mon espace. Mais je commence à être de mieux en mieux organisée dans ma tête. Donc ça, si tu veux, dans ma tête, ça va de mieux en mieux, l'organisation. Mais dans l'espace, l'autre fois au café, justement, au café sur Instagram, là, le matin... On me disait, mais en fait, tu vis dans un atelier, c'est-à-dire que tu n'as pas d'atelier dans ton appartement, c'est ton appartement, c'est ton atelier. Oui, c'est ça. C'est ça, je vis dans un atelier, littéralement, c'est ça. Donc je suis très bordélique.
Et enfin, en règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique ?
Non, perfectionniste.
Ouais, alors j'allais dire, je connais la réponse, pourquoi t'hésites ?
Mais parce que je sens que tu vois que je suis dans un moment un peu charnière où il y a des trucs qui bougent et tout, donc ça me permet aussi de remettre le curseur, tu vois, sur là où il y a encore un peu de taf et tout. Je dis pas que c'est négatif d'être perfectionniste, mais je suis quand même à un niveau où faudrait que voilà, qu'on se lâche un peu du lest, donc non perfectionniste.
Non, mais il y a aucune de ces propositions qui est négative. Effectivement, oui, comme on est tous toutes un peu des deux, l'équilibre à trouver, c'est un peu, quelle proportion on met de chaque. Et effectivement, être trop perfectionniste, c'est ne rien faire, parce que tu es tout le temps en train d'attendre les conditions optimales et tu risques parfois d'attendre très longtemps. Et être 100% pragmatique, c'est parfois justement manquer de recul, manquer de réflexion avant d'agir, et c'est pas non plus la meilleure solution. Merci beaucoup, Élise Francis. C'était passionnant.
Merci, Clémence Bodoc.
Où est-ce que j'envoie tous les gens qui ne te connaissaient pas encore et qui du coup t'ont découverte à travers cette interview et qui ne voudront plus rien rater de ton travail puisque désormais ils sont complètement en admiration et en amour pour toi.
Venez encore, je sais pas, tu vas le sortir quand ton podcast ?
Demain.
Allez, t'es sérieux ?
Bah ouais.
Putain, ok, nickel. Bah écoutez, moi je me suis engagée avec moi-même à faire des cafés live le matin jusqu'au 15 mai de 9h à 9h20 en live sur mon compte Instagram @elisefrancis. Après ce sera toujours encore sur Instagram, il n'y aura peut-être plus de café live, mais ou du moins pas à la même fréquence, donc venez sur Instagram. Et sinon ma chaîne YouTube aussi, Élise Francis, 2SO j'allais dire 2SE. ouais, voilà, et puis c'est tout, je crois.
Oh, c'est déjà pas mal. Merci.
Ouais.
Merci beaucoup Élise, à très vite.
Merci
sur internet.
Oui, c'était cool.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_podoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com. patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.